France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Franchement, l'Europe, jusque-là, ça m'intéressait pas. Mais il y a eu cette soirée.
Comme tous les ans, ma mère avait réuni les copines de son année Erasmus en Angleterre.
Comme d'habitude, elles sont toutes arrivées avec leurs vieux CD de chanteurs tout pourris ou inconnus.
Et comme à chaque fois, elles nous ont parlé de l'Europe.
Elles ont voulu savoir pour qui on allait voter pour la première fois aux élections européennes.
Sauf que nous, on savait même pas qu'il y avait des élections européennes.
Et l'Europe, de toute façon, on s'en foutait.
Ça, ma mère, ça l'a rendu folle.
Et juste pour ça, on a décidé de leur prouver que l'Europe, pour nous, ça sert à rien.
Et voilà comment je me retrouve ici, à Bratislava.
Et ma mère, elle a raison, je sais même pas où c'est sur la carte.
Tiens, je vais le partager sur Insta.
Grand reportage exceptionnel aujourd'hui, une émission en public depuis l'Agora de Radio France pour conclure le projet Insta d'Europe porté depuis 4 semaines par la rédaction de France Culture. Vous avez peut-être lu ou écouté sur Instagram les stories de Kylian, Manon, Leïla et Hugo, des personnages imaginaires qui cherchent à s'informer sur l'Europe, posant leurs questions en Belgique, en Pologne, en Espagne et en France. Puisque les jeunes Européens s'abstiennent de plus en plus au fil des scrutins, puisque 8 jeunes Français sur 10 âgés de 18 à 24 ans ne prévoient pas d'aller voter dimanche, nous avons expérimenté une nouvelle démarche. Nous nous sommes emparés des outils des jeunes pour les informer sur l'Europe et leur permettre d'exprimer leurs doutes et leurs envies. Instamag, le regard des jeunes sur l'Europe, c'est un projet multimédia et interactif coordonné par Cécile de Carvazdoué. C'est vous qui êtes à l'initiative d'Insta d'Europe, Cécile de Carvazdoué, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui a motivé ce projet ?
L'abstention des jeunes électeurs dont vous parliez, l'abstention qui ne cesse de croître d'élection européenne en élection européenne, qui est beaucoup plus marquée que lors des scrutins nationaux et qui prouve finalement l'ampleur du désintérêt des jeunes pour l'Union européenne. En rencontrant ces jeunes Français, par exemple, en les interrogeant sur Instagram également, ils l'expliquent en disant que l'Europe est trop lointaine, trop complexe, trop obscure et surtout, ils répètent qu'il manque d'informations. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ont tout un tas d'idées reçues sur l'Europe.
Et donc, pour mieux informer les jeunes, vous êtes allé sur leur terrain, entre guillemets.
Oui, c'est-à-dire sur le terrain du numérique. Nous avons délivré de l'information vérifiée sur Instagram parce que c'est un réseau social très prisé des jeunes qui fonctionne donc en images, vidéos, textes et bien sûr interactivité. Et donc, nous avons tenté de faire le lien entre Instagram et des articles sur le site de France Culture et bien sûr l'antenne radio.
Vous avez même créé des avatars.
Oui, sur le compte Instagram de France Culture, les reporters se sont donc glissés dans des personnages de fiction, des jeunes de 20 ans, imaginaire, bien sûr, mais vraisemblable, au parcours et aux personnalités différentes. Vous avez donc pu suivre Kylian, Manon, Leïla et Hugo.
Et vous êtes parti sur des thèmes qui intéressent les jeunes et également des idées reçues des jeunes sur l'Europe.
Éducation, frontières, solidarité, environnement, pour les jeunes Européens, ce sont les thèmes prioritaires sur lesquels l'Union Européenne devrait agir. En tout cas, c'est ce qui ressort des enquêtes de la Commission Européenne. Et beaucoup de jeunes pensent que l'Europe ne fait pas ou ne fait même pas assez sur ces questions. Ils pensent par exemple que l'Union Européenne ne va pas les aider à avoir un emploi, qu'elle laisse les migrants mourir en Méditerranée, que l'UE finalement c'est un truc pour les hommes blancs, riches et vieux, et qu'elle ne fait pas assez pour le climat.
Merci Cécile. Nous allons donc écouter les reportages sur les 4 thématiques que vous venez d'évoquer. Des reportages porteurs de solutions, ils ouvrent en tout cas des pistes pour répondre à ce désintérêt des jeunes. Mais d'abord, présentons nos invités. Bonjour Sinan Amourkou.
Bonjour.
Vous avez 16 ans, vous êtes membre de la Junior Association Explorateur de l'engagement. Quel est son objectif ?
Alors, l'objectif de la Junior Asso, c'est de trouver des solutions et des raisons pour lesquelles les jeunes Européens sont de moins en moins concernés et investis dans la vie citoyenne en Europe.
Donc on est en plein dans notre thème du jour.
Exactement.
Alors Vincent Couronne, notre deuxième invité, ne va pas tarder. Il est enseignant-chercheur à Sciences Po Saint-Germain, responsable du campus numérique et créateur du collectif Les Surligneurs. Cécile de Carvazdoué, quelle est la vocation de ce collectif ?
C'est un collectif qui rassemble des enseignants-chercheurs, des universitaires dans tous les domaines, politiques, juridiques, des historiens, et qui vise finalement à défaire un peu les fake news sur l'Union européenne, à commenter, à défaire surtout oui, tout ce qui est dit sur l'Union européenne et qui n'est pas vérifié. Ils se sont par exemple illustrés cette semaine lors du débat des européennes sur France 2, sur Twitter. Ils ont finalement, un à un, défait toutes les imprécisions et puis toutes les infox qu'il y avait sur la campagne des européennes.
Nous allons donc écouter ensemble un premier reportage. Est-ce que l'Europe peut me permettre de trouver un emploi ou d'être mieux formée? C'est la question que se posait le personnage de Kylian sur Instagram. Et c'est vous qui lui avez donné vie, Anne-Laure Chouin.
Oui, j'ai essayé de savoir si quand on a 19 ans, un bagage scolaire, disons, modeste et pas forcément l'envie de bouger hors de son pays, si donc l'Europe avait un intérêt pour nous. Alors évidemment, on ne peut pas s'intéresser à l'Europe de la formation et de l'emploi sans immédiatement entendre le mot Erasmus. Et quand on dit Erasmus, on dit souvent étudiant. Écoutez, Naofel, habitant d'une cité près de Bordeaux, il n'est plus étudiant, lui.
La dernière fois que je crois que j'ai parlé de programme Erasmus, on m'a tout de suite sorti « est-ce que j'étais en master ?» Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, je suis plus à l'école. Et je trouve que c'est plus réservé à ces jeunes-là, qui sont en faculté, qui ont en master, qui ont machin, qu'à des jeunes comme nous.
Donc tu penses que l'Europe, elle doit être accessible?
Ouais, à tout le monde. À tout le monde, vraiment à tout le monde. Que vous soyez blanc, noir, chinois, enfin voilà. Enfin, vraiment, qu'elle soit ouverte à tous. Et moi, je trouve... Enfin, on n'y est pas encore, quoi. On n'y est pas encore. C'est que dans les écoles et que dans l'éducation nationale. Si on ne va pas à l'école, on n'est au courant de rien. Il faudrait ouvrir les portes, en fait. Les portes à tout le monde. Franchement, à tout le monde.
Alors, Naofel, je l'ai rencontré grâce à une association qui s'appelle Aux couleurs du débat, située à Pessac, donc en Gironde. Une association qui s'est fait une spécialité de trouver des financements européens à destination des publics dits fragiles, décrocheurs scolaires, anciens délinquants, sans domicile, femmes battues ou personnes handicapées, car ces publics-là sont prioritaires dans l'Europe de la formation. C'est en tout cas ce qu'affiche la Commission européenne. Karim, rencontré lui aussi via cette association, a pu partir ainsi en Roumanie.
Je pense que tout le monde peut bénéficier de l'Europe, mais très peu de gens sachent. C'est ça le problème. Parce que même moi, pour mes premiers séminaires européens, j'étais pas au courant. Moi, qui est français, déjà, je pensais me sortir du lot avec ce qui existe déjà en France. Et je n'avais aucune intention déjà de faire des mobilités, déjà ne serait-ce qu'en Europe. Alors que depuis que j'ai rencontré cette association, on m'a dit « Non !» Tout est possible, tout est réalisable, c'est juste ton envie, c'est juste toi, vis ta vie.
Alors à Bordeaux, toujours se trouve le siège de l'agence Erasmus+, qui pilote tous les programmes européens de formation. Il y en a beaucoup. Et la France est de tous les pays de l'Union celui qui en profite le plus, avec des programmes de formation pour adultes, des programmes d'échange de la maternelle au bac, et puis de plus en plus, des programmes destinés aux apprentis. Malheureusement pour l'instant, les lycées professionnels et les centres de formation par l'apprentissage ne sont qu'une minorité à en bénéficier, parce qu'il est parfois difficile de les mettre en place, ces programmes. C'est ce qu'a fait pourtant le CFA du bâtiment de Reims, où j'ai rencontré Lucas, 19 ans, en brevet professionnel de maçonnerie, qui est parti, lui, en Italie.
J'ai pas spécialement l'envie d'aller étudier pour l'instant à l'étranger ou d'aller voir autre chose. Après, donc, le voyage restait intéressant, mais j'ai pas l'impression que ça a été très enrichissant personnellement.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus, à ton avis, pour que ça le soit?
Un travail peut-être un peu plus complexe, entre guillemets, parce que les techniques de travail étaient plus ou moins semblables aux nôtres, donc... C'était relativement pareil qu'ici, quoi. Donc sur les 2 ans, on a en fait restauré... Donc c'était des remparts, donc c'était quand même classé en tant que monument. Donc c'est vrai que c'était déjà une chance de travailler sur quelque chose comme ça. Mais entre guillemets, le travail lui-même, donc de restaurer, remaçonner les pierres et puis refaire les joints, c'était pas difficile du tout, quoi.
Et est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec d'autres jeunes, pour le coup, italiens? Et est-ce que vous avez remarqué des différences?
En fait, on était que nous en tant que Français avec une autre classe qui sont partis avec nous de Chaumont. Et il n'y avait pas d'autres Italiens avec nous, en fait. Il n'y avait pas de jeunes, tout ça. Il y avait juste une personne qui nous servait, entre guillemets, de guide et puis qui nous montrait le travail, quoi.
Donc ça a manqué aussi, peut-être? Vous auriez aimé avoir...
Ça aurait peut-être pu être bien aussi d'avoir des personnes de notre âge, ou du moins un peu plus jeunes, pour voir un peu plus de monde travailler...
Et alors, pour le coup, est-ce que tu te dis, y a quand même une différence entre un Erasmus d'un étudiant qui part toute une année de fac dans un autre pays et ce qu'on nous propose à nous, apprentis, où c'est quand même court, un peu restreint et finalement, où on n'apprend pas plus de choses que ça?
Après, je pense que c'est pas du tout les mêmes projets, entre guillemets, que les deux voyages ont à proposer. Quelqu'un qui va partir un an, il va être plus livré à lui-même, je pense, donc il va vraiment devoir... miser plus sur lui que nous, on est tellement encadré, tout ça. En 2 semaines, on n'est pas non plus dépaysé, quoi. Enfin...
Voilà, pas un enthousiasme débordant après cette expérience. Signe peut-être que l'Erasmus des apprentis doit monter en puissance. Ce qui est ressorti, en tout cas, de ce reportage, c'est que les publics les moins voués, en quelque sorte, à profiter de l'Europe sont pourtant les plus marqués par l'expérience européenne. Je vous propose d'écouter à nouveau Naoufel et Karim, handicapés, donc tous les deux partis en Roumanie et en Pologne.
J'aurais jamais, il y a 10 ans de ça, vous m'auriez dit, Naoufel, tu vas partir en Pologne, mais j'aurais rigolé, quoi. Je pensais jamais partir, en fait, un jour, de tout seul, déjà. Et à partir de là, en fait, je dirais qu'il y a eu un déclic dans ma vie, en fait, parce que j'étais un garçon pas sociable, même si je faisais un métier qui l'est. Mais c'était très dur de m'imposer en tant qu'handicapé dans un milieu valide, en fait, qui va beaucoup plus vite que vous. À partir de là, je vais en Pologne, tout se passe bien, tout ça. Et là, en fait, je me suis dit, ben, je suis avec des gens que je connais pas. Et en fait, j'ai rien à perdre puisque je les connais pas. Donc, vas-y, Naoufel, fonce et mets-toi en valeur, quoi. Fais ce que tu sais faire.
Sur le retour, on est beaucoup plus conquérant qu'avant d'être parti. Et du coup, on a envie même d'avancer dans nos projets professionnels, même en France. Et du coup, de s'imposer, de savoir s'imposer. C'est surtout ça, savoir s'imposer. Comme on a su s'imposer là-bas, même en anglais, alors que ben, l'anglais, on a une difficulté de langage. Mais on a su s'imposer, on n'a pas eu de problème. Alors pourquoi on aurait en France ?
Voilà, l'expérience à l'étranger, ça n'est plus à prouver, est un accélérateur de compétences. Tout indique que l'Europe l'a bien compris, mais qu'il lui reste beaucoup de progrès à faire en termes d'information et de pédagogie sur ce qu'elle propose.
Merci Anne-Laure Choin. On va tout de suite donner la parole au public. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter avant de poser votre question à l'un de nos deux invités, puisque Vincent Couronne est bien avec nous, bien maintenant, bonjour.
Bonjour.
Alors allez-y.
Oui, bonjour, je m'appelle Marie, je suis étudiante en double licence lettres modernes et espagnoles. J'ai 22 ans et il y a un paradoxe qui m'échappe. Je ne comprends pas pourquoi dans cette mondialisation dans laquelle nous vivons, malgré toutes les richesses technologiques que nous connaissons, pourquoi est-ce que l'information ne vient pas vraiment à nous ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas très bien au courant finalement des enjeux européens, des politiques européennes ?
Alors c'est une réflexion, évidemment, je pense que vous allez tous les deux avoir envie de répondre à cette question. On commence peut-être par vous, Sinan Amourcou.
Alors je pense que le premier problème, c'est peut-être que l'Union européenne n'utilise pas les mêmes canaux d'information que les jeunes, que même si elle l'essaye des fois en utilisant Instagram, Twitter, Snapchat, etc., le fait que ce soit nouveau, peut-être que tout le monde n'y pense pas, ne pense pas à s'informer là-dessus, et que même en utilisant les bons outils, il n'y a peut-être pas la bonne façon de l'écrire, parce que c'est peut-être des personnes un peu trop âgées ou pas, qui n'ont pas le bon regard sur les choses pour le formuler ou l'exprimer de la bonne façon.
Vincent Couronne.
Oui, bon alors moi je m'exprimais plus en juriste du coup, mais il y a deux éléments, je pense, à votre question, enfin de réponse à votre question, Marie. Je pense que le premier élément, c'est la question de l'éducation, c'est-à-dire que vous avez dû l'expérimenter au cours de votre scolarité, à l'école primaire jusqu'au lycée. On parle assez peu d'Europe au final, donc on a une acculturation aux institutions, aux programmes, à l'histoire européenne qui est finalement assez faible. Donc ce qui fait que quand vous arrivez dans vos études ou dans la vie active, eh bien, vous avez un premier réflexe qui est de vous tourner vers les institutions nationales et ce qui se passe au niveau national et pas forcément ce qui se passe au niveau européen. La deuxième raison, qui est là beaucoup plus juridique pour le coup, c'est que l'Union européenne s'est construite d'abord avec les États et par les États. Et donc, les États membres, ils ont, si vous voulez, un certain intérêt à faire en sorte que c'est eux, au final, qui maîtrisent la communication européenne sur leur territoire et non pas l'Union européenne elle-même. La Commission européenne, par exemple, on se dit, eh bien, pourrait passer par-dessus les États et communiquer à leur place, etc. Mais en réalité, la Commission est très dépendante des États. Donc, elle est très en retrait en termes de communication. Donc, non seulement elle n'utilise pas, et je suis d'accord avec ce que disait Sinan, elle n'utilise pas les mêmes moyens de communication que les jeunes, mais en plus, elle en utilise tout simplement pas beaucoup.
Cécile de Kervas-Doué.
Et pourtant, effectivement, donc, lors de la dernière mandature, sur 6 ans, la Commission, enfin l'Union européenne, a dépensé, je crois, 183 millions et demi d'euros pour tenter de communiquer sur les institutions. Je crois que cette enveloppe va augmenter, puisque pour la prochaine mandature, la Commission prévoit de dépenser 233 millions d'euros. Mais en même temps, elle prévoit aussi, finalement, de déléguer les compétences de communication aux États membres pour que les États membres trouvent peut-être les meilleurs canaux. Je pense par exemple à la question de l'école. Comment se fait-il qu'à l'école, je crois que c'était ce qu'il y avait dans votre question, Marie, comment se fait-il qu'à l'école on ne soit pas mieux informé sur les institutions ?
Je pense que déjà, si les États, au sein de leurs programmes d'éducation nationaux, mettaient l'Europe plus en avant, au lieu de mettre que leur propre pays, par exemple en France, on parle beaucoup de la Constitution française, de comment la France elle a été bâtie, etc., mais on parle que très peu de l'Europe. On sait que c'était après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est très flou, très vague.
Vous n'avez pas de cours d'éducation civique européen, vous qui êtes lycéen ?
Alors moi non, j'ai pas eu une seule minute d'éducation morale et civique cette année, par exemple. Et si jamais on en avait, ce serait à propos de la France, pas de l'Europe. On parle pas de l'Europe, c'est un truc tellement abstrait, un concept tellement abstrait et trop au-dessus des gens que même les profs n'ont pas trop tendance à y penser.
Vincent Couronne, est-ce que vous savez si dans d'autres pays européens, on a justement une éducation un peu plus développée sur le thème de l'Europe ?
Ah, précisément, non, je sais pas, mais de manière en dehors, enfin, comment dire, sans rester dans le cadre strict de l'éducation, il y a des États en Europe où on a une meilleure culture du multiniveau de gouvernement. En France, on est très centralisé, même si on est un État décentralisé, s'inscrit dans la Constitution, mais on reste quand même très, très jacobin. Mais il y a des États, comme l'Allemagne, par exemple, qui est un État fédéral, où ils ont beaucoup plus l'habitude d'avoir des programmes d'éducation qui apprennent la complexité d'un gouvernement multiniveau, au niveau du Land, au niveau de l'État fédéral et au niveau, j'imagine, aussi européen.
Mais donc là, c'est plus parce qu'il y a une proximité de modèle entre le modèle allemand et celui de l'Union européenne.
Tout à fait. Et déjà, l'éducation étant une compétence de l'État et non pas de l'Union, quasiment pas de l'Union, ça c'est un premier élément qui freine pas mal. Et le deuxième élément, c'est qu'en France en particulier, on a une conception de la souveraineté et de l'État qui est extrêmement statocentrée et qui fait assez peu de place à l'Europe.
Donc face à ce manque d'informations, Sinan Amourcou, vous essayez justement de compenser un petit peu, entre guillemets.
Oui, exactement, c'est ce qu'on a fait. Pendant 2 ans, on a voyagé en Europe pour voir comment les autres Européens voyaient l'Europe et la défendaient, la voyaient, et comment ils envisageaient de faire des choses avec l'Europe pour l'Europe. Et on a remarqué que, globalement, le sentiment européen, il est présent, en fait. Et que ce soit en France, en Belgique, en Suède, on allait vraiment dans un grand nombre de pays européens. Le sentiment européen, il est présent, mais il n'est pas présent de la même façon. En Suède, ils pensent beaucoup à l'Europe comme une unité, un truc complémentaire à la Suède. Mais alors qu'en France, c'est un truc supérieur. On n'y pense pas comme une opportunité pour acquérir des compétences ou quoi que ce soit. Alors que dans d'autres pays, comme l'Allemagne ou la Suède, c'est le cas.
Alors on va écouter maintenant Manon qui se pose cette question. L'Europe laisse-t-elle mourir les migrants en Méditerranée ? Manon, c'est vous, Audrey Tison. Vous êtes notamment partie en Andalousie où arrivent chaque mois des centaines de migrants. Et les jeunes que vous avez rencontrés ont du mal à comprendre qui est responsable de la situation, qui est censé protéger les frontières de notre continent.
Et d'abord, je vous propose de retourner là où j'étais, devant la cathédrale de Cadiz, pour assister à un cercle de silence organisé par l'association Cardjin qui héberge et accueille des migrants. Ce soir-là, une cinquantaine de personnes, des Espagnols et des Africains, se tiennent debout en cercle. Silence. En mémoire de ceux qui sont morts en Méditerranée, une femme marocaine a notamment été retrouvée inerte le matin même sur la plage.
C'est un silence de douleur, de solidarité et de dénonciation. Nous continuons à réclamer d'autres politiques migratoires qui favorisent des itinéraires sûrs et des canaux humanitaires afin que les migrants qui tentent d'atteindre notre terre n'aient pas les mafias qui les exploitent.
Chaque semaine, ce sont des centaines de migrants qui arrivent ainsi sur les côtes andalouses. Alors qu'en pensent les jeunes Espagnols ? J'ai posé la question à Alfonso et à Eva qui observent ce cercle de silence de loin. Ils se disent assez ouverts, mais tous les deux estiment qu'il y a un problème.
Une fois qu'ils arrivent ici, ils pensent qu'ils vont avoir une bonne vie, mais le problème, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Ici, on a la crise comme partout, surtout ici à Cadiz. C'est l'endroit peut-être d'Espagne où il y a plus de chômage.
C'est pas le problème d'une seule ville ou d'un seul pays, mais c'est le problème de toute l'Union européenne, de tout le monde. Parce que l'Espagne, c'est leur premier arrêt, mais ce n'est pas leur destination finale. Ici, on a beaucoup de chômage. Beaucoup de migrants partent ensuite en France ou en Allemagne. Alors, que fait l'Europe dans tout ça? C'est une question que j'ai souvent entendue hein, lors de mon voyage en Andalousie, la pointe sud de l'Espagne qui fait face au Maroc. Comment se passe le voyage pour ceux qui veulent traverser le détroit de Gibraltar? Eh bien, j'ai posé la question à l'un des migrants que j'ai pu rencontrer, un jeune Guinéen qui a traversé plusieurs pays jusqu'au Maroc avant de monter dans un Zodiac à Tanger.
On est entré dans le bateau, on était 37 personnes. On a fait près de 18h, 20h comme ça sur l'eau. Parce qu'il faisait un peu nuit, il y avait l'eau aussi qui n'était pas du tout bonne. Lorsqu'on était perdu, on n'avait plus de réseau sur la mer, on cherchait des contacts pour appeler la Croix-Rouge ou bien le Salvamento Maritime avant que la marine espagnole nous a secourus. Si tu as été pris par la marine espagnole, on te ramène en Espagne.
Vous l'avez compris, hein, ce sont les migrants qui ont signalé leur détresse et ont finalement reçu assistance des autorités espagnoles. Ce sont sans doute ce qu'on appelle les sauveteurs maritimes qui sont venus pour ramener ce groupe jusqu'au port d'Algeciras. Car ce sont bien les États et non l'Union européenne qui sont responsables de leurs frontières. C'est Isabelle Géguzo, chef de la représentation en France de la Commission européenne, qui nous l'explique.
Ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Chaque pays est compétent pour surveiller la frontière extérieure, c'est-à-dire celle qui est avec des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Évidemment, celui qui la surveille au nom de tous les autres. Et s'il y a des manquements ou si un État est en grande difficulté, ça a été par exemple le cas de la Grèce, les autres sont là pour venir l'aider. On a mobilisé une agence qui s'appelait Frontex, que l'on a transformée au cours de cette crise migratoire en agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes. Aujourd'hui, on a en permanence environ 1200 gardes-frontières et gardes-côtes déployés. Ces agences sont là pour aider les autorités nationales dans la surveillance de leurs frontières, en particulier en Grèce, il y en a en Bulgarie, il y en a aussi en Italie.
Et c'est aussi le cas dans le détroit de Gibraltar. Des gardes-côtes européens sont donc présents sur les bateaux espagnols et des gardes-côtes espagnols peuvent aussi monter sur les trois bateaux européens qui patrouillent dans cette zone. Leur mission première, c'est d'arrêter les trafiquants et les passeurs. Mais il leur arrive aussi régulièrement de secourir des migrants en détresse. C'est ce que nous dit la représentante de la Commission.
On ne le dit pas beaucoup, mais l'Union européenne a sauvé 730 000 personnes en mer depuis 2015.
Et si elle tient à le préciser, à nous donner ce chiffre, c'est que bien souvent des ONG, des organisations non gouvernementales, accusent l'Europe de ne pas respecter le droit de la mer et de ne pas secourir ces migrants en détresse. C'est faux, donc, nous dit-on. En revanche, on peut dire que l'Europe n'est pas vraiment proactive dans ce domaine. Par exemple, quand l'Italie a voulu stopper l'opération Sophia, une opération qui organisait le secours maritime dans les eaux internationales entre l'Italie et la Libye, eh bien, cette opération a récemment été réduite.
On intervient vraiment à la demande des autorités nationales et comme le demandent les autorités nationales. Donc là, la demande italienne était de stopper une opération maritime. Donc voilà, il n'y a plus de bateaux, on a plutôt des avions.
L'Europe n'a donc pas vraiment eu le choix, nous dit-on. Eh bien, cet argument, quand on le donne, quand on l'explique aux jeunes Espagnols, ils ont du mal à l'entendre. Écoutez ce qu'en pense Mario.
L'Europe doit gérer leur sauvetage et proposer des programmes de développement en Afrique ou de migration par les voies légales. La seule manière de régler le problème, c'est de travailler ensemble.
Travailler ensemble, ça semble bien être le problème en ce moment. Avant de négocier de part et d'autre de la Méditerranée, ne faudrait-il pas d'abord imposer une forme de solidarité à l'intérieur de l'Europe? C'est un sujet qui fait partie des priorités du moment, d'après les jeunes citoyens que j'ai rencontrés.
Merci Audrey Tison. Alors qui veut répondre justement à cette question que vous venez de poser? Vincent Couronne peut-être?
En fait, je pense que dans ce reportage, ce qui était intéressant, c'était d'entendre il faut que l'Europe fasse quelque chose et que ça révèle en réalité toute l'ambiguïté du terme Europe. Qui est-ce qu'on vise quand on parle de l'Europe? On vise à la fois ce qu'on appelle les organes d'intégration, par exemple le Parlement européen qu'on va élire dimanche. Oui, dimanche, c'est ça. Je suis confus avec les élections qui se déroulent tous les jours en ce moment. Mais il y a ce Parlement européen qui aura une certaine autonomie, qui aura une majorité, une politique, etc. Mais en face, s'il y a les États membres. Donc quand on parle de l'Europe, c'est à la fois ces organes-là, comme la Commission et le Parlement européen, qui représentent l'intérêt général de l'Union européenne, et les États membres, et c'est pas facile de les faire travailler ensemble. Et je pense qu'en réalité, il y a ce qui a été bien dit, il y a la question des frontières, et notamment l'espace Schengen, relève de la responsabilité des États, la protection des frontières, mais il y a tout ce qui est la question des règles en matière d'asile et d'immigration. Et ça, l'Union a une vraie compétence là-dessus. Et il ne faut pas non plus que l'Union européenne dégage sa responsabilité sur les États membres sur ces questions-là, parce que à la fois les États au Conseil et le Parlement européen ont une responsabilité dans les règles qu'ils ont établies, et notamment dans le refoulement de tout un tas de demandeurs d'asile, et puis aussi dans la situation qu'on a entre l'Union européenne et la Libye aujourd'hui. Il faut savoir que l'Union européenne aujourd'hui forme des gardes-côtes libyens pour qu'ils gardent et qu'ils récupèrent tous les migrants qui voudraient prendre la mer et aller vers l'Europe. L'accord qui a été conclu aussi entre l'Union européenne et la Turquie pour garder les migrants et les demandeurs d'asile en Turquie qui ne mettent pas le pied sur le territoire européen, bon ben ça c'est quand même, c'est l'Union européenne. Alors c'est vrai, ça a été négocié à la base par Angela Merkel, mais l'Union européenne l'a avalisé derrière, sous la pression des États. Voilà, donc c'est pas évident de parler d'Europe, surtout quand on la connaît assez peu, on peut comprendre le désarroi des gens quand on leur dit c'est la faute de l'Europe, ou en fait non, l'Europe n'y est pour rien, ce sont les États. En fait, c'est toujours un peu des deux, et il faut savoir démêler le bon grain de l'ivraie, mais c'est pas forcément évident. Et je sais pas si c'était très clair.
Sur cette problématique des migrants en particulier, parce qu'effectivement, les États, quand bien même les États sont responsables, c'est vraiment un problème européen, puisqu'il y a les pays qui sont en première ligne, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. S'il n'y a pas une collaboration, ça a vraiment un impact sur tous les autres pays de l'Union.
Oui, et ça, en réalité, les règles qui ont été adoptées au sein de l'Union, elles sont un peu responsables de ça aussi. Le règlement Dublin, par exemple, qui prévoit que le demandeur d'asile doit faire déposer sa demande dans l'État dans lequel il est arrivé dans l'Union européenne, bon, ben, ça fait que des pays comme l'Italie ou comme la Grèce se retrouvent avec tout un tas de demandeurs d'asile à gérer, alors qu'en réalité, elles n'ont pas les moyens de le faire. Alors certes, l'Union apporte des moyens et de l'aide pour traiter ces demandes-là, mais c'est très déséquilibré.
Cécile de Kervès-Douet.
On a l'impression justement que ce règlement de Dublin, quand même, a fait presque la preuve de son inefficacité, ou en tout cas de ses défauts. Est-ce qu'il ne serait pas possible, et comment ce serait possible, de le remettre en question, puisqu'on cherche des solutions ?
Il est actuellement en train d'être, on négocie au sein de l'Union européenne sa révision en ce moment, mais c'est complètement bloqué justement parce que la vision du Parlement européen d'un côté et des États membres en face est complètement incompatible. C'est-à-dire que le Parlement européen voudrait une meilleure répartition des charges au sein des États européens, une meilleure communautarisation, mettre les choses en commun, ces règles en commun, alors que les États, en réalité, si vous regardez entre l'Est de l'Europe, des pays comme la Pologne, comme la Hongrie, si vous regardez des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, avec des gouvernements très différents, mais des problématiques relatives à l'immigration qui peut-être sont un peu proches, et puis des doubles discours en France, par exemple, sur cette question-là, on a des positions irréconciliables.
Et alors, on a aussi un fonctionnement des institutions qui est très complexe. Est-ce que on peut imaginer les rendre un peu plus lisibles pour que justement les jeunes, entre autres, mais aussi les plus âgés, s'y retrouvent ? Sinan Amourkou, c'est vraiment un souci pour vous, cette non-lisibilité de l'Europe aujourd'hui ?
Alors, je pense pas que le fait que les institutions de l'Europe soient compliquées soit c'est soit le problème. Je pense que c'est surtout la communication, parce que en soi, il y a quelques institutions, mais pas tant que ça. On pourrait à peu près comparer ça à celle de la France, mais le fait que les jeunes en majorité ne sachent pas ce que chaque institution fait, ça pose un problème. Et par rapport aux migrants, on a eu l'occasion d'aller en Italie l'année dernière, et les jeunes Italiens, on était en Sicile, rejetaient surtout la faute sur l'État d'Italie, et pas trop sur l'Europe. Ils étaient plutôt en faveur de l'Europe et contre l'État italien. Et donc, c'est un comportement un petit peu différent de ce qu'on peut voir en France, et on peut se demander pourquoi, dans un pays qui accueille tant de migrants, donc l'Italie, il y a une vision différente qu'en France, où on accueille en comparaison moins de migrants.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Et nous allons partir tout de suite en Pologne. Beaucoup de jeunes voudraient que l'Europe ait plus de pouvoir, qu'elle ait des compétences sociales autant qu'économiques. Mais c'est une question qui divise, Cécile de Kervès-Douet. C'est ce qu'a découvert votre personnage, Leïla, à Varsovie, lorsqu'elle a cherché à savoir ce que faisait l'Union européenne en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
En Pologne, à part la musique de Chopin, la société est divisée sur presque tous les sujets.
Le paradoxe, c'est que la question de l'Europe cristallise cette division, alors même que la plupart du temps, elle n'a pas les compétences pour intervenir.
In Poland, in the Polish law, marriage is for women and men.
En Pologne, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Je sais bien qu'en France, chez vous, vous avez le mariage homosexuel, mais pour moi, ce n'est pas un mariage. Je n'ai rien contre eux, mais comment dire ? En fait, je ne veux pas parler de ce sujet.
Ania est une antiféministe qui vient de participer à un congrès de femmes organisé dans le Parlement polonais par l'ultra-droite nationaliste au pouvoir. Des femmes qui clament qu'il n'y a pas de problème d'égalité homme-femme en Pologne et que l'Europe n'a pas à dicter ses standards européens.
Au début, l'Union européenne n'a pas été conçue comme une union politique. Mais maintenant, c'est devenu presque un pays à part entière qui nous impose des politiques, particulièrement la Pologne et la Hongrie. Alors, je pense que si nous sommes eurosceptiques, comme vous dites, ce n'est pas pour détruire l'Europe de l'intérieur, mais parce que nous voulons retourner à la situation d'avant. Et si l'UE garantit la liberté d'expression, elle doit nous entendre et ne pas dire que nous sommes à droite, donc que nous sommes fascistes et qu'il ne faut pas nous parler.
Mais depuis 2016, des dizaines de milliers de Polonaises manifestent pour défendre ce qui est devenu l'étendard de l'égalité femmes-hommes, le droit à l'avortement. Ces manifestations sont censurées dans les médias publics et pourtant, elles continuent d'avoir lieu et rassemblent beaucoup de jeunes. Paulina, par exemple, a 26 ans. Elle a eu l'idée de créer un journal d'éducation sexuelle pour informer les filles. Et quand je lui pose la question de l'Europe...
L'Europe me pose question. J'ai l'illusion que la Pologne, pays membre de l'Union européenne, est un pays moderne et européen. Mais la plupart du temps, j'ai l'impression de vivre au Moyen-Âge. Je veux dire, ils veulent supprimer le droit à l'avortement, qui est déjà très restreint. L'éducation sexuelle est dispensée par des prêtres à l'école. Et il n'y a qu'un seul mode de vie possible, une famille hétérosexuelle, unie devant Dieu par le mariage. Et puis, suivant les préceptes de l'Église, le sexe n'est une bonne chose que s'il permet d'avoir des enfants. Et le parti au pouvoir fait de l'homophobie son principal argument de campagne pour les Européennes, ce qui provoque le suicide de nombreux jeunes Polonais. Dans ce contexte, faire partie de l'Union européenne est une bouée de sauvetage pour nous. Chaque jour, nous devons nous battre contre les décisions du gouvernement, être vigilants et manifester. Alors sans le soutien de l'Europe et de ses institutions, je crois que la Pologne pourrait facilement sombrer dans la dictature.
À Varsovie, chaque jour, les manifestations se succèdent. En ce moment, c'est surtout la censure culturelle qui les motive, parce que le nouveau directeur du musée national, fraîchement nommé par le gouvernement, a décroché des œuvres jugées trop féministes. Le milieu de la culture demande donc à l'Europe d'intervenir. Nella est guitariste, elle a fondé ce qui reste encore une anomalie en Pologne, un groupe de rock féminin, le gang Szudniestia.
Il y a des règles et des droits humains dans l'Union européenne que notre pays se doit de respecter. Mais ce gouvernement ne respecte pas l'indépendance de la justice. Il met la main sur les médias, censure la culture pour promouvoir un art patriotique et les valeurs de la guerre, alors que l'Europe a été créée justement pour éviter la guerre. C'est complètement schizophrène parce que nous avons reçu beaucoup de la part de l'UE pour construire des routes, des écoles, des infrastructures. Nous sommes bien contents de toucher l'argent européen, mais nous ne respectons pas les règles. On est dans Game of Thrones, en fait. Le gouvernement polonais refuse de coopérer et ne fait que satisfaire sa soif de pouvoir.
Mais l'Union européenne n'a pas la compétence pour intervenir, ni sur la culture, ni sur les droits reproductifs. C'est le domaine des États membres. Changeons ça, répétez-vous alors sur Instagram, comme Magdalena, 25 ans, tout en détermination, qui me donne rendez-vous aux abords de l'Université de Varsovie, où elle a fait ses études de droit.
Law is written by men for men.
Oui, je pense que le problème, c'est que le droit est écrit par les hommes pour les hommes. Et il faut que l'Europe change ça. Il faut qu'elle fasse des lois, des règles pour forcer des pays comme la Pologne ou la Hongrie à respecter le droit en termes d'éducation, de protection des femmes, d'accès à l'avortement, quitte même à les poursuivre en justice. Et même si de telles mesures mesure serait très impopulaire.
À défaut de légiférer, l'UE distribue des aides européennes. Par exemple, ces 6 dernières années, elle a versé plus d'un milliard et demi d'euros pour que des ONG assurent l'égalité de genre en Europe. Le cas échéant, la Cour européenne de justice peut aussi avoir gain de cause. Mais ça ne marche pas, s'inquiète Liliana Religa, qui travaille pour le planning familial polonais, financé par les États-Unis.
La Pologne a été condamnée 3 fois devant la Cour européenne de justice, mais aucune de ces décisions n'a été appliquée. Il y avait cette idée au sein du Parlement européen de conditionner les aides européennes au respect de l'état de droit européen. Ces restrictions financières en Pologne pourraient fonctionner, mais il y a un risque, c'est qu'elles peuvent aussi nourrir tous les discours eurosceptiques de nos politiques.
Une solution efficace, oui, lorsque l'on sait que la Pologne est le premier bénéficiaire net de subsides européens. Sauf que ce n'est pas possible, répond Leïla sur Instagram. Pour imposer de telles sanctions, il faut l'unanimité des États membres. Or, la Hongrie protège la Pologne et vice-versa. Et c'est là le danger qui guette aujourd'hui l'Union européenne, considère l'historien Jaroslav Kuis, fondateur de la revue Cultural Liberalna, une référence pour les étudiants en Pologne.
Qu'est-ce que ça veut dire de créer cette Union européenne où on a l'agenda des droits et puis on a des politiciens illibérales qui essayent de jouer contre? Mais en même temps, je vois une chose qui m'inquiète énormément, qu'il y a des politiciens, des intellectuels aussi en France qui commencent à dire « et peut-être on devrait rester en 6, en 10, comme avant ». Ça veut dire qu'on ne cherche pas des projets pour le futur qui sont ambitieux. On a cette nostalgie qui commence à diviser l'Europe au cœur de l'Europe.
Cécile de Kervasdoué, et nous avons une question dans le public. Bonjour, on vous écoute. Commencez par vous présenter.
Bonjour, alors moi c'est Raphaël, j'ai 18 ans, donc je suis étudiant à Sciences Po. Merci beaucoup pour votre reportage. Alors suite à ce qu'on vient d'entendre, j'ai envie de vous poser la question suivante. Comment se sentir européen et comment peut-on parler d'identité européenne alors que tous les Européens n'ont en fait pas tous les mêmes droits, comme ici dans le cas du droit à l'avortement, donc la situation des femmes polonaises le montre bien, et plus largement qu'ils n'ont pas tous les mêmes chances de vie, pas tous les mêmes opportunités. Merci.
Vous voulez ajouter quelque chose, Cécile ?
Oui, effectivement, c'est une question qui revient beaucoup hein, sur Instagram pendant toute l'Insta d'Europe. L'un d'entre vous, par exemple, nous a écrit « Comment créer une Union européenne si les questions qui touchent les citoyens au quotidien, et particulièrement les jeunes, ne peuvent être abordées ni légiférées faute de compétences ?» Et il rajoute « À quand une Europe politique, une Europe sociale ?»
Ça s'adresse à moi, je sens.
Allez-y.
Alors, c'est effectivement la question, pour faire le point avec ce que disait Raphaël, la question de l'identité, ça se construit. Et aujourd'hui, avant d'arriver aux questions des compétences, on voit qu'il commence à y avoir des sans être... avoir aujourd'hui une opinion publique européenne complètement construite, on commence à avoir déjà des mouvements un peu transnationaux, des débats. Regardez le Brexit, par exemple, on en parle partout en Europe. Et voir l'unité des Européens sur cette question-là est assez intéressante. La crise financière aussi, et le cas de la Grèce, le traitement de la Grèce pendant la crise a aussi pas mal mobilisé les Européens. Et regardez la question environnementale aujourd'hui. Je suis arrivé assez en retard tout à l'heure et je m'en excuse auprès de vos auditeurs, mais c'est parce que justement, il y avait beaucoup de monde en fait dans Paris, à cause d'une manifestation de lycéens sur les questions climatiques. Et ça, ces manifestations-là, on les voit partout en Europe. C'est assez intéressant. Donc ça, c'est on peut avoir une construction un peu
d'un... plus tard dans l'émission.
D'accord, ben, très bien. Après, une fois qu'on commence à avoir cet espace public européen qui se construit, on peut faire en sorte de pousser nos propres États pour qu'ils donnent plus de compétences à l'Union si on veut que l'Union traite mieux les questions sociales, les questions alors aussi environnementales, etc., et les questions de le droit reproductif aussi, parce qu'effectivement, l'Union a très peu de compétences sur la question des droits reproductifs en particulier. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne fait rien. Le droit à l'avortement, par exemple, l'Union ne peut absolument pas légiférer sur la question, mais quelque chose d'assez ingénieux, c'est que la Cour de justice, elle a, d'une manière détournée, utilisé... Vous savez, dans l'Union, on a le marché intérieur avec les libres circulations des personnes, des capitaux, des marchandises, mais aussi des services. Elle s'est servie de la libre circulation des services pour considérer le service quand on fait appel à un médecin pour avorter comme étant une prestation de service et considérer que tout citoyen européen a le droit d'accéder à cette prestation de service partout sur le territoire, même si c'est interdit sur son propre territoire. Donc un Irlandais par exemple, une Irlandaise plutôt, qui voudrait avorter où c'est interdit en Irlande, peut très bien aller au Royaume-Uni pour le faire. Et la même chose pour les Polonaises. Donc il y a
Ça pose quand même des problèmes de finances. Moi, les Polonaises que j'ai rencontrées m'expliquaient que oui, c'est ce qui se passe dans les faits. C'est-à-dire que les Polonaises qui ont les moyens vont ailleurs en Europe pour pratiquer l'avortement et les autres qui n'ont pas les moyens, elles, ne peuvent pas pratiquer cet avortement.
C'est toute la lacune de la compétence de l'Union sur ces questions-là. Donc il faut vraiment que les États modifient les traités pour donner, si on veut que l'Union agisse dans ce domaine-là, mais dans les domaines où l'Union a une compétence plus forte, l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple. C'est une compétence, en tout cas c'est un objectif de l'Union qui est inscrit dans les traités depuis 1957, depuis le traité de Rome. Il y a un article dans le traité de Rome qui dit « L'Union, enfin la communauté à l'époque, assure l'égalité entre les hommes et les femmes au travail, d'abord. » Et c'est ça qui a permis très rapidement, pendant les années 60, 70, 80, d'essayer d'améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes au travail.
On n'y est pas encore tout à fait aujourd'hui.
On est par exemple à 16% de différence salariale entre les hommes et les femmes sur toute l'Union. Sachez quand même que la Pologne, en revanche, est très bien classée puisque c'est 7% de différence salariale entre les hommes et les femmes.
C'est pas mal, mais il y a un exemple concret de ces normes-là. Vous avez une dame dans les années 80, en Irlande, elle s'appelait Marguerite Johnston, elle était policière, elle n'avait pas le droit de porter d'armes. Elle n'avait pas le droit de porter d'armes parce qu'en Irlande, on considérait qu'une femme policière ne pouvait pas porter une arme. Sauf qu'elle travaillait et elle disait que c'est une discrimination fondée sur le sexe. Et elle a pu aller, est allée jusque devant la Cour de justice. Et la Cour de justice a dit oui, effectivement, c'est une discrimination. Et l'Irlande, tout de suite, a modifié sa législation. Et les femmes policières en Irlande, désormais, peuvent porter des armes. Et vous avez pareil sur les retraites au Royaume-Uni, où les femmes auparavant au Royaume-Uni devaient partir plus tôt à la retraite que les hommes, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des choses qui... Comment dire, ça va pas très vite, mais en tout cas, c'est plus efficace que sur l'IVG où là, l'Union n'a pas de compétences.
Et là, on voit qu'il y a des budgets qui sont débloqués, alors qu'on entend toujours le reproche fait à l'Union européenne. On entend de la part des hommes ou des femmes politiques, c'est à cause de Bruxelles qui nous impose telle ou telle chose. Il y a limite parfois de la soit de la méconnaissance, soit de la désinformation.
C'est-à-dire sur le fait que l'Union ne finance pas les bons projets ou
Alors, soit dans ce sens-là, soit à l'inverse, que l'Europe veut essayer d'influencer les États dans telle ou telle direction.
Ah oui, c'est son rôle en fait à l'Union européenne. À partir du moment où au Parlement européen, il y a une majorité qui s'est dégagée sur une réforme et que cette majorité, elle a trouvé un écho au sein du Conseil représentant les États membres, que cette réforme est adoptée au sein de l'Union, les États doivent l'appliquer. Et ils se sont engagés à le faire. Donc l'Union, ensuite, et la Commission au premier chef, qui est garante du respect des traités, elle est là pour faire en sorte que les États respectent ce qui a été adopté au niveau européen. Vous avez récemment, par exemple, un socle européen des droits sociaux qui a été adopté à Göteborg en 2017 par l'ensemble des États membres de l'Union européenne, par le Parlement européen aussi, et la Commission européenne était présente. Donc ils sont tous mis d'accord sur un socle européen de droits sociaux. Il n'est pas contraignant, mais il y a tout un agenda, un programme qui a été établi pour que petit à petit l'Union et les États membres arrivent renforcent ces droits sociaux-là. Eh bien, l'Union, du coup, est dans son rôle désormais. Elle a été mandatée en quelque sorte par le Parlement européen et les États membres pour mettre ça en œuvre. Et donc, ça serait une hypocrisie de la part des États membres de dire que l'Union leur impose des choses qu'ils ne veulent pas.
Mais dès qu'il y a contrainte, ça entraîne aussi des réactions eurosceptiques. Toute la complexité.
C'est tout le problème de est-ce que l'Union européenne est suffisamment forte pour faire face à ces contestations eurosceptiques ou non.
Voilà. Alors nous allons donner maintenant la parole à Véronique Reberotte, alias Hugo. Pour lui, vous l'évoquiez, l'Union européenne n'en fait pas assez pour protéger la planète et un avis partagé par de nombreux jeunes Européens qui manifestent pour réclamer un état d'urgence climatique. C'est donc aujourd'hui la deuxième marche mondiale pour le climat. La première, le 15 mars, avait rassemblé 1,8 million de jeunes et il y a notamment une forte mobilisation en Belgique en ce moment devant les institutions européennes. Vous avez justement rencontré des jeunes très actifs collectif à Bruxelles, Véronique.
Oui, il y a des jeunes mobilisés depuis 18 semaines maintenant, des grèves scolaires, des manifestations, des opérations de désobéissance civile hebdomadaires. Leur but, c'est être un pont, en fait, dit-il, entre les scientifiques et les politiques. À ceux qui leur reprochent leur grande naïveté, ils répondent en fait qu'ils ne font qu'entendre les alertes des scientifiques et relayer ces messages d'alerte auprès des responsables politiques. Ils sont donc un pont entre les deux. Surtout ces jeunes belges ou autres ont bien perçu la dissonance cognitive entre ce que promettent les États et les actions réelles de l'Europe. Adélaïde Charlie a 18 ans, elle est coordinatrice en Belgique du mouvement Les Jeunes pour le Climat.
On se demande comment ça se fait qu'en 2016 on ait signé en accord les objectifs de Paris et que tous les pays qui ont signé cet accord soient aussi loin de leur objectif. Et donc on se demande, nous jeunes, mais est-ce que ça va continuer comme ça? Il faut un changement et comment est-ce qu'on peut changer? Ça, c'est sûr qu'on n'a pas les solutions, mais les experts ont les solutions. Donc ce qu'on demande aussi, c'est aux politiciens de débattre avec les experts, de trouver ensemble comment ils peuvent utiliser les solutions des experts et les inclure dans des lois ou dans en certains règlements pour ensuite pouvoir vraiment évoluer vers cette nouvelle société zéro carbone pour 2050.
Pas question pour cette génération climat d'être récupérée par qui que ce soit. L'écologie n'est pas un argument de campagne, c'était d'ailleurs le slogan de la manifestation du jour. Ces jeunes veulent juste de l'action politique en lien avec les enjeux climatiques, d'autant qu'ils savent donc que les solutions existent et qu'au niveau de l'Union européenne, eh bien, il y a la possibilité de faire autrement, de réorienter les financements, d'adopter des réglementations ambitieuses, etc. L'Europe pourrait même être un exemple pour le reste du monde, elle en a les moyens. C'est ce que dit Julie Henchez, elle a 25 ans, elle effectue en ce moment un service civique au sein du mouvement Alternatiba.
Même si on ne s'en rend pas forcément compte, l'Europe a un rôle assez important dans les questions climatiques et de biodiversité. Ça peut être via les leviers de l'agriculture, donc l'Europe quand même responsable de la politique agricole commune. Donc si on veut réformer drastiquement la façon dont l'agriculture fonctionne en Europe pour préserver la biodiversité, ben, c'est via l'Europe qu'il faut passer. Ensuite, c'est aussi pour le cas pour les traités d'échanges commerciaux, donc le TAFTA, le JAFTA, par exemple, ce sont des traités qui abaissent les normes et qui mettent un peu en danger le marché plutôt sain et bien normé qu'on a mis en place en Europe. Pour moi, il faut mettre en place une sorte de protectionnisme français ou européen, ou en tout cas de localisme, faire en sorte que ce soit beaucoup plus compliqué d'acheter, importer par avion ou même par bateau, que d'acheter du local produit par des personnes qui habitent à quelques kilomètres à la ronde de chez soi et qu'on revienne à quelque chose qui ait beaucoup plus de sens. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que ce soit impossible qu'un fruit qui vienne du Costa Rica soit moins cher qu'un fruit qui vienne de France. Bon, actuellement, l'Europe n'est pas une vraie protection au niveau environnemental et n'a pas du tout d'ambition écologique. Enfin, pour moi, c'est un mensonge, c'est un leurre. Par contre, on pourrait la transformer parce qu'elle a des leviers d'action écologique. Il est possible qu'elle prenne de grandes décisions d'investissement, arrêter d'investir dans le gaz et de décider d'investir dans les renouvelables, ou alors de changer radicalement la politique agricole commune. L'Europe peut prendre énormément de décisions qui vont dans le bon sens, mais simplement actuellement, c'est pas les bonnes personnes qui sont aux manettes, et en plus, c'est les lobbies qui ont toutes leurs entrées à Bruxelles qui décident d'énormément de choses.
Il y a des ONG aussi environnementales, mais c'est quoi le rapport de force du coup qui est vraiment disproportionné?
Quand on écoute les ONG, moi je fais partie d'une ONG, mais on n'est pas à Bruxelles, mais quand on les écoute, ils sont complètement dépassés. C'est David contre Goliath, donc ils sont à 1 contre 100 et ils ont le même rapport de force au niveau de l'argent. Donc quand ils arrivent à arracher une petite victoire, il y en a 100 autres qui passent en douce et sans qu'on en dise rien, donc c'est terrible quoi.
Voilà, des idées en plus. Pour améliorer le fonctionnement des institutions, 1,5 milliard quand même d'euros dépensés en lobbying l'an passé à Bruxelles, ça donne un petit peu le vertige. Et puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui voient dans cette mobilisation, la mobilisation de cette génération climat, eh bien, une occasion de réconcilier peut-être finalement les citoyens avec l'Europe, de tisser de vrais liens. C'est l'idée de Christophe Almazi, il est étudiant en affaires européennes.
Peut-être que justement, l'écologie, c'est ce grand projet européen qui pourrait relancer l'adhésion des citoyens dans l'Union européenne. On voit bien que la préoccupation pour l'environnement, elle est de plus en plus importante. Donc déjà, ça montre que peut-être que justement, c'est l'écologie qui pourrait donner un nouveau souffle à l'Europe. Ça pourrait être un véritable projet de changement qui créerait ce nouvel espoir dans l'Europe, en fait. Et donc, je pense que déjà, pour que ce type de changement émerge, il faudrait pouvoir renforcer la participation citoyenne dans l'Union européenne, faciliter les initiatives citoyennes qui actuellement sont très complexes, renforcer le pouvoir des citoyens, le pouvoir du Parlement, lutter contre l'influence des lobbies et tous ces phénomènes qui empêchent la transition écologique. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'au sein du mouvement, beaucoup de personnes n'ont pas encore le droit de vote et ne peuvent même pas encore se présenter. Et pourtant, elles sont déjà très mobilisées, très concernées. Et donc, je pense que les personnes qui ont le droit de vote ou les personnes qui ont le pouvoir d'être élues doivent aussi penser à ces générations futures dont la voix ne peut pas être entendue maintenant dans le scrutin.
La question, est-ce que le climat, l'écologie peut rapprocher, réconcilier l'Europe avec la jeunesse, peut-être renforcer l'adhésion des citoyens? C'est vrai que c'est une bonne question.
Qu'on peut poser à Sinan Amourkou.
Je pense que ça, l'écologie, ça peut vraiment être le levier d'un départ d'initiatives citoyennes nouvelles en Europe, comme le World Cleanup Day qui a été beaucoup suivi, beaucoup médiatisé pour que beaucoup de personnes s'investissent. Par exemple, on voit dans le nord de la France, la MDA de Tourcoing par exemple qui a mis en place plein d'actions pour promouvoir cette journée où tout le monde donne un petit peu de son temps pour nettoyer les rues, la ville, les bâtiments pour que ce soit un petit peu plus propre. Et on remarque aussi que il y a plein d'initiatives qui sont faites pour faciliter l'engagement des jeunes. On en a entendu parler. Apparemment, c'est compliqué de s'engager. Effectivement, c'est le cas. Il y a plein d'initiatives, il y a plein de possibilités de s'engager. Il y a les juniors associations, par exemple. On parle toujours des associations pour les personnes majeures, mais il y a aussi la même chose qui existe pour les mineurs. Toutefois, on ne sait pas que ça existe parce que il y a tellement de dispositifs différents qui existent que les moins importants, les moins utilisés passent un petit peu à la trappe. C'est pour ça que l'association, donc les explorateurs de l'engagement, a créé un label qui s'appelle les citoyens aujourd'hui, qui a pour objectif d'aider les jeunes et de faciliter l'engagement. Donc c'est à travers 25 idées, propositions qu'on a récoltées à travers toute l'Europe, qu'on essaye et qu'on met à partir de maintenant en place dans des établissements scolaires français pour commencer, plein de possibilités, plein d'aides, plein de débats, des initiatives comme ça, pardon.
Ouais, concrètement, qu'est-ce que c'est en fait?
Le label?
Non, qu'est-ce que vous faites pour justement pousser les jeunes à s'engager, pour les aider, pour faciliter l'engagement des jeunes? Parce que c'est vrai que finalement, nous quatre, là, reporters, ce qui nous a étonné à la rencontre des jeunes européens, c'est qu'il y en a énormément qui sont engagés, qui sont militants, qui ont envie de faire des choses. Ils sont pas du tout attentistes et indifférents, aux questions européennes.
Non, bien sûr, c'est un constat qu'on a aussi fait, qu'on a commencé à, pendant nos deux années d'exploration d'Europe, c'est que beaucoup de jeunes sont investis, beaucoup de jeunes se sentent concernés et veulent faire des choses et essayer de plein de façons différentes. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de rapporter ces différentes idées en France. Et donc, à travers des débats, des fois, on va dans des collèges, on parle avec les collégiens, on leur demande ce qu'ils aimeraient faire. Et après, on leur explique avec quels moyens ils pourraient mettre leur projet en place.
Et notamment des moyens européens, justement. Les institutions européennes peuvent aider les jeunes à s'impliquer.
Exactement. Des moyens européens comme les projets Erasmus+, on leur explique qu'il y a des financements qui existent pour qu'ils puissent prévoir un échange ou un partenariat avec d'autres associations de pays européens ou juste aller dans d'autres pays européens pour observer comment ça se fait là-bas. Et donc c'est à travers ce label, cette communication que nous on fait les explorateurs d'engagement, on essaie d'expliquer à tout le monde, à tous les gens qui pourraient se sentir concernés, et donc essentiellement tout le monde, les jeunes à partir de 8 ans, on peut commencer à faire des choses. Il faut pas être majeur pour commencer à ramasser des déchets dans la rue. C'est vraiment juste ramasser des déchets dans la rue quand on se balade, c'est une action citoyenne quelque part. Donc c'est faut vraiment comprendre que il faut aider les gens à s'investir au lieu de les freiner.
Alors on va se tourner encore une fois vers le public. Bonjour, vous vous appelez?
Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de prépa littéraire. Je suis très concerné par les questions environnementales comme beaucoup de jeunes mais aussi de moins jeunes. Et donc je voulais vous poser la question, il y a beaucoup de bonne volonté qu'on entend, mais sur le plan législatif, notamment par exemple sur des questions qui divisent comme l'agriculture, donc avec la politique agricole commune, les transports, l'énergie, qu'est-ce qui peut être fait concrètement au niveau de l'Europe, donc avec un budget restreint, avec énormément de diversité des situations économiques, etc. Et des procédures législatives complexes aussi.
Vincent Couronne.
Très bonne question, et j'ai envie de vous répondre, en fait, tout ce que vous voulez. On est pile dans le domaine. Ah non, allons-y. Je veux dire, on est pile dans le domaine. La question environnementale dans le domaine par excellence ou pour lequel ça vaut le coup d'aller voter dimanche, parce que c'est une compétence de l'Union depuis 1997. Et en plus de ça, la procédure pour adopter, pour légiférer en matière environnementale au niveau de l'Union, elle est très simple. Majorité au Parlement, majorité au Conseil, majorité qualifiée certes, mais c'est pas l'unanimité, donc vous n'avez pas un État qui peut mettre son veto, etc. C'est très simple et ça fonctionne. Donc s'il y a vraiment un intérêt pour aller voter dimanche, c'est sur les questions environnementales. En plus de ça, c'est une question globale et qui là, du coup, on peut légiférer au niveau adéquat, c'est-à-dire au niveau régional, qui est l'Europe, et qui pèse dans les émissions de CO2, dans les questions climatiques au niveau mondial. Et jusque-là, ça fait une vingtaine d'années qu'on a au Parlement européen aussi une majorité qui n'est pas des plus engagés sur les questions environnementales. Donc quand je dis tout ce que vous voulez, c'est que vous regardez toute la diversité des listes qui sont candidates pour les européennes. Alors, ils ont tous un engagement pro-environnement qui varie. Mais prenez celle que vous voulez et là, vraiment, on peut agir.
Alors, Véronique Roberotte.
Oui. Sur un sujet comme le climat qui demande une nécessaire aussi solidarité internationale, c'est ce qu'on entend. On voit bien aussi que l'Europe n'a plus, ou il y a eu un peu de leadership, mais ne l'a plus. C'est compliqué. On a l'impression que chez nous, on se met des taxes, des réglementations un peu sévères. On ne pourra plus. Les autres ne le feront pas et c'est inutile.
Alors, réponse rapide, Vincent Couronne.
Oui, j'essaie de faire court. Bah oui, bah alors là, je vais blâmer les États encore, si vous pouvez me le permettre. Mais c'est parce que on est dans les différents États membres dans une tendance en ce moment où on parle beaucoup sur les questions environnementales, mais en réalité, on freine des quatre fers dès qu'il s'agit vraiment de changer de modèle ou ce genre de choses. Donc, encore une fois, allez voter dimanche pour changer de majorité si vous voulez que ça avance sur les questions environnementales.
Alors cette émission n'est pas finie, pour le public de l'Agora, elle va se poursuivre avec nos invités. Vincent Couronne, enseignant-chercheur à Sciences Po Saint-Germain, créateur du collectif Les Surligneurs, et Sinan Amourkou de la Junior Association Les Explorateurs de l'Engagement. Instamag, le regard des jeunes sur l'Europe, c'est un projet multimédia et interactif auquel ont participé Audrey Tison, Anne-Laure Chouin, Véronique Roberotte et Cécile de Kervas-Doué qui l'a coordonné. Merci à Nathalie Lopez, Éric Chavroux et Fiona Mogadam de la rédaction multimédia. À la réalisation, Annie Bro, à la technique, Jean-Frédérics et Anthony Thomasson. Et comme toutes les semaines, bien sûr, vous pouvez réécouter et podcaster Grand Reportage sur franceculture.fr.